RFI. Grand reportage.
L'Occident va tenter de s'appuyer sur la cinquième colonne et les traîtres. Il n'a qu'un seul objectif, la destruction de la Russie. Mais le peuple russe sera toujours capable de faire la distinction entre les vrais patriotes et la racaille et les traîtres et de les recracher simplement comme on recrache un moucheron entré dans la gorge.
La Russie vote, de vendredi à dimanche, pour une élection présidentielle dont l'issue ne fait aucun doute. La Russie, qui a profondément changé en 2 ans, peu après avoir envoyé ses soldats en Ukraine, Vladimir Poutine avait, vous venez de l'entendre, lancé ce que le pouvoir et ses soutiens décrivent comme une chasse aux traîtres. Message bien reçu par une partie des Russes et de nombreuses organisations. Les signalements et dénonciations se sont envolés et la société s'est repliée sur elle-même. Dénonciation, 2 ans qui ont changé la Russie, c'est un grand reportage d'Anissel Jabri.
Une librairie de quartier dans le centre de la capitale russe. À l'intérieur, dès l'entrée, quelques tables, un rayon boulangerie et café.
Des livres et un café, c'est une combinaison parfaite. C'est même idéal. Les gens viennent ici pour se sentir bien. C'est une symbiose vraiment cool quand l'odeur du café incite à la lecture des livres.
Pas de clients à cette heure matinale. RFI est accueilli quand cette librairie indépendante n'est pas encore ouverte. Le couple qui la tient veut rester le plus discret possible. Car si le lieu est chaleureux, il n'a rien d'une bulle hors du monde. Au-dessus de la caisse, bien en évidence, un ouvrage de Sergueï Gouriev, l'économiste russe, qui a quitté la Russie il y a 10 ans. Sur une autre étagère, tout aussi visible, le dernier livre de la politologue réputée Yekaterina Shulman, celui du célèbre journaliste Mikhail Zigar. Tous deux ont cette fois quitté le pays en 2022. Ces 3 auteurs, enfin, ont tous été classés par le pouvoir agents de l'étranger.
Nous vendons tous les livres des agents de l'étranger que nous pouvons recevoir. En Russie, il n'y a pas d'interdiction de les vendre, mais il y a l'obligation de les couvrir. On ne peut pas ouvrir le livre et le feuilleter. Il doit aussi être labellisé « agent de l'étranger » avec ces grosses lettres que vous voyez. On doit aussi ajouter que c'est interdit aux moins de 18 ans. C'est à l'éditeur de s'en charger, mais si ce n'est pas le cas, c'est nous qui le faisons. Mais nous écrivons cela avec délicatesse, car après tout, il n'y a pas de texte obligatoire. Par exemple, pour ce livre de Zigar que vous voyez ici, nous avons bien écrit qu'il est agent de l'étranger et nous avons ajouté entre parenthèses « dans notre cœur ». Et parce que nous l'aimons beaucoup, nous avons ajouté des cœurs partout sur la couverture. Bien sûr, c'est terrible ce signalement, mais c'est aussi très bien pour les gens qui peut-être ne se sont pas rendus compte de ce qui est en train de se passer et de ce qui pourrait arriver. Peut-être que d'une certaine manière, ça permet que les gens se rendent compte et fassent face à la réalité.
Ces cœurs, ces petits mots peuvent pourtant, le couple le sait, être potentiellement déjà de trop.
Bien sûr que c'est effrayant parce qu'on pourrait avoir des problèmes comme une inspection. On pourrait être poursuivi, non pas officiellement pour les livres que nous vendons, mais parce que soudainement, certains de nos papiers administratifs pourraient être considérés comme n'étant pas en ordre. Bien sûr, ça veut dire que de notre côté, nous vérifions chaque document plusieurs fois. Ça nous prend beaucoup de temps. Tout ça juste parce que quelqu'un pourrait entrer dans notre librairie et dire « Vous vendez des livres de Zigar, ça me plaît pas. C'est terriblement triste. Mais ce qui m'énerve le plus dans cette situation, c'est que certaines personnes pensent que leur opinion est plus importante que la mienne. Ils viennent et ils imposent leur vue aux autres. Parce que maintenant que nous avons une politique d'État de dénonciation, que c'est impossible d'exprimer ouvertement son opinion, ces gens se considèrent comme très importants et peuvent organiser une chasse aux sorcières. Dire « Hello, je te connais pas du tout, mais je vais te détruire parce que je n'aime pas ce que tu fais. » Ils considèrent comme étant de leur devoir de dénoncer, de piétiner, d'humilier, de faire envoyer des personnes en prison. Je ne comprends pas ces gens. Pourquoi vouloir délibérément faire du mal à quelqu'un ?
À quelques kilomètres à vol d'oiseau, en plein cœur de Moscou, des bureaux à l'entrée, très discrètes, Niché dans une rue entre l'église du Christ Saint-Sauveur et les murs du Kremlin, au cœur de la géographie russe du pouvoir.
Nous conseillons simplement aux agents de l'étranger de vendre leurs livres dans d'autres pays. Par là, je veux dire les pays classés inamicaux par la Russie. Nous suggérons qu'ils emportent tous leurs livres avec eux, parce que tout le monde en a marre d'eux. Les gens ici se sont bien rendus compte de qui ils sont, des traîtres, des gens qui ont trahi notre pays, notre président, notre société. Et c'est pour cela que nous pensons que ces livres doivent être enlevés. Nous savons qu'ils sont des traîtres. Mais nos enfants, ils ne se rendent pas encore tout à fait compte. Nous avons ici des gens honorables qui méritent d'être lus et mis en avant. Alors pourquoi s'attarder sur ce qu'écrivent les traîtres ?
Quand Vitali Borodine dit qu'il conseille et qu'il suggère, chacun sait en Russie qu'il vaut mieux faire très attention.
J'ai grandi dans une famille de militaires. Je suis diplômé d'une école militaire et nous avons certaines priorités. Nous savons faire la différence entre le noir et le blanc. Notre organisation est composée de personnes qui sont également militaires. Et il y a de hauts gradés avec nous. Colonel général, major général.
Chaussures lustrées, carrure impressionnante dans un costume coûteux, Vitali Borodine est le dirigeant de l'organisation Projet fédéral pour la sécurité et la lutte contre la corruption. Pour le rencontrer, on emprunte des escaliers décorés de tableaux de maîtres avant d'arriver dans une pièce de plusieurs mètres de hauteur avec moulures au plafond. Dans la salle d'attente, de nombreuses photos du dirigeant avec l'élite du pouvoir. Vitali Borodine y pose notamment avec Younous Bek Yevkourov, le vice-ministre de la Défense, Nikolai Patrouchev, le patron du FSB, au tableau de chasse de Vitali Borodine, uniquement des figures publiques très connues.
C'est à cause d'eux et de ce qu'ils disent qu'une partie de la jeunesse a fui le pays, parce qu'ils donnent des informations déformées et fausses.
Signaler à la justice et dénoncer publiquement pour avoir contrevenu à une loi ou être ce que Vitali Borodine considère comme des ennemis de la Russie. Les artistes et les journalistes ne sont pas les seuls dans son viseur. Boris Nadejdine, le candidat écarté de la course à la présidentielle aussi, mais pas seulement.
Nous avons aujourd'hui un problème avec une cinquième colonne dans notre pays, parce que personne ne l'a suffisamment combattue. Depuis 30 ans, voire 50 ans, nous sommes assis, silencieux, et personne ne soulève ces questions alors qu'il y a des cellules dormantes. Nous nous en sommes rendus compte lorsque nous avons poursuivi l'acteur Daniil Kozlovski. Lorsque le juge a d'abord statué en sa faveur, nous avons réalisé qu'il y avait aussi des traîtres dans le système judiciaire. Cependant, nous avons réussi à faire inverser la décision. Nous avons aussi fait constater de nombreuses violations de la procédure et le juge, lui, a fait l'objet d'une enquête minutieuse. Cette cinquième colonne est donc partout, dans le gouvernement, dans le show business et dans les cercles artistiques. Nous devons lutter sans relâche contre elle. Nous sommes probablement la seule organisation qui va organiser des manifestations contre les traîtres. Nous allons demander à nos autorités de nous attribuer des endroits où nous pourrions nous rassembler et sortir avec des pancartes sur les personnes qui ont trahi notre pays, pour les stigmatiser publiquement. Nous avons déjà œuvré en ce sens ces deux dernières années.
L'organisation de Vitali Borodine revendique une armée d'avocats et des bureaux dans chacune des 53 régions du pays. À Saint-Pétersbourg, Timour Bolatov lui aussi explique avoir des relais partout. Mais ce père de deux enfants exerce seul, derrière son ordinateur ou son téléphone, dans son appartement d'un immeuble de classe moyenne, à une heure du centre-ville.
J'ai 48 ans, je suis artiste métallier et bijoutier. J'ai commencé mon activité publique en 2008. Je me vois comme un défenseur de la pureté et de la moralité des enfants. Ma motivation, c'est que je suis un citoyen russe et qu'en tant que tel, j'aide à rendre mon pays plus propre et plus sûr. Je fais ça quand tout est en ordre à la maison, quand les enfants dorment. Parfois entre 11h du soir et 2h du matin, mais ça me prend en moyenne 6 heures par jour. Dès que j'ai un moment, j'analyse certaines chaînes sur Telegram et YouTube, je regarde les signalements que font mes volontaires. J'en ai plus d'un millier.
Jusqu'en 2022, les cibles de Timur Bulatov pour ce qu'il juge être défendre son pays et les enfants étaient essentiellement dans la communauté LGBT. Depuis, son activité s'est élargie. C'est lui qui est à l'origine de ce cas retentissant, l'arrestation de Sacha Skotchilenko, l'artiste lesbienne, qui avait mis des messages anti-guerre sur les étiquettes d'un supermarché.
Quand l'opération spéciale a commencé, l'essentiel de l'attention, bien entendu, s'est tourné vers les personnes qui étaient contre, qui exprimaient leur position illégale d'une manière illégale. Dès le premier mois, j'ai eu 12 cas de crimes. Et comme j'ai beaucoup d'informateurs dans la communauté LGBT, j'ai aussi reçu l'information que la citoyenne du nom de Skotchilenko irait à une certaine adresse et mettrait ces fameuses étiquettes. J'ai appelé mes copains dans les structures de sécurité, j'ai même appelé une structure à Moscou qui a plus de pouvoir que le ministère de l'Intérieur et ils m'ont donné le feu vert, ils m'ont dit « Vas-y, fais ce qu'il y a à faire ».
Arrêté au printemps 2022, l'artiste a été condamné à 7 ans de prison pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Ses soutiens sont eux aussi dans le collimateur de Timur Bulatov. Assis à la table de sa cuisine, voilà la vidéo qu'il montre sur son téléphone.
C'était le 16 novembre dernier quand le verdict Skotchilenko a été rendu. Il y avait un homme avec une pancarte dans le tribunal et en plus, il criait des slogans avec d'autres. Bref, c'était une vraie manifestation avec l'usage de matériel de propagande. Voilà, regardez là, ce sont les images du tribunal. Voilà le juge. Et là, si vous continuez à faire défiler, vous tombez sur cet homme, Dinar Idrissov, qui est debout avec une affiche. J'ai fait un stop, sauvegardé la vidéo, enregistré, et puis j'ai fait un signalement que j'ai envoyé dans la nuit à la police. Il tombe sous le coup de l'article 21 du Code sur les offenses administratives.
Signalement, comme les appelle Timur Bulatov, ou dénonciation, ça peut se terminer comme ça. Des hommes des forces spéciales de la police, cagoules et gilets pare-balles, qui courent dans la neige et entrent dans une maison en bois peint vert clair. L'arrestation de Vassili Bolchakov a été rendue publique sur une chaîne Telegram locale de sa région, réputée proche des services de sécurité. Pour ne pas être mis en détention provisoire, ce père de 4 enfants a accepté cette pratique importée de Tchétchénie sur tout le territoire russe. Une vidéo d'excuse, elle aussi rendue publique.
Moi, Vassili Anatolievitch Bolchakov, j'ai écrit sur le réseau social Vicontact un commentaire qui discrédite les forces armées de la Fédération de Russie et insulte les participants à l'opération militaire spéciale, qui remplissent leur devoir de protection. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai offensés et blessés avec ces mots. Je promets de ne plus rien écrire de tel à l'avenir.
Assis dans une cafétéria de Kassimov, une petite ville perdue dans une région sans histoire, à des centaines de kilomètres de Moscou, Vassili Bolchakov et son avocat l'affirment. Rien dans le dossier judiciaire ne mentionne une dénonciation, mais ce professeur d'anglais de 38 ans n'a pas vraiment de doute. Comment, sinon, la police aurait-elle su pour ce qui lui vaut aujourd'hui un procès, une blague sur le retrait de l'armée russe de Kherson, quelques mots qui ont à peine reçu une poignée de likes et de commentaires.
J'aime faire des blagues, mais les policiers m'ont dit que je pouvais plaisanter sur la personne de Vladimir Poutine, mais pas sur les soldats, ni globalement sur tous ceux qui participent à l'opération. Maintenant que je comprends que si je fais une blague de plus, il est sûr et certain que je vais aller en prison, forcément ça me freine. Mais pour être honnête, je vois à peine l'intérêt aujourd'hui de plaisanter sur les soldats, parce que beaucoup de gens, même s'ils ne soutiennent pas Poutine, soutiennent quoi qu'il arrive les soldats. C'est un peu bizarre, c'est une mentalité que je trouve très étrange selon laquelle nous devons soutenir les nôtres, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent. Je ne comprends absolument pas la logique derrière tout ça. Parce que, par exemple, les prisonniers sont donc aussi les nôtres. Ils ont commis des crimes, mais ce sont aussi des Russes, non? Mais moi, je ne les considère pas comme les nôtres. Je considère comme nôtres les personnes qui partagent des valeurs comme les miennes. Vivre mieux, ne pas faire de mal aux autres, être heureux, rendre les autres heureux autant qu'on le peut, rendre le monde meilleur. Je ne comprends pas qu'on puisse se dire unis simplement parce qu'on est une nation. C'est quelque chose sur mon pays que je n'avais pas réalisé avant. Cela a été une sorte de surprise. Ici, il y a des gens qui veulent juste se sentir plus grands que les autres. Ils veulent avoir l'impression que leur pays est grand, que tout ce dont nous avons besoin, c'est que tout le monde ait peur de nous. Que certes, on peut vivre dans la merde, mais qu'on effraie tout le monde, et que ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas besoin que ces gens-là soient nombreux. Pour dénoncer quelqu'un, pas besoin de 100 personnes. Même pas besoin d'une douzaine. Il suffit juste d'une pour lancer le processus.
À la sortie de la première audience de son procès, la lecture de l'acte d'accusation, Vassili Bolchakov s'exprime cette fois en russe et se montre bavard, trop bavard pour son avocat.
Je vais vous dire autre chose. Ça fait quand même un moment que tout cela dure. Ça fait même 2 ans que cette opération militaire spéciale est menée. Et on ne peut pas en parler. On ne peut rien dire ouvertement contre.
Arrête ça tout de suite, tu vas te retrouver avec une autre procédure contre toi.
Ok, laisse-moi reformuler. Ça, c'est la politique du gouvernement actuel. Et le gouvernement actuel est caractérisé par le président actuel.
Stop. Vraiment, ça suffit les commentaires. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous traversons une période très difficile et très tendue. Pratiquement toutes les déclarations concernant l'opération militaire spéciale et la position des autorités sur cette opération peuvent être perçues comme discréditant les forces armées. Et ça, c'est encore le moins grave, car sinon, c'est qualifié de faux contre les actions des forces armées. C'est un article du code pénal et les peines de prison peuvent être très longues.
Tout peut être objet de soupçons et de dénonciations, y compris les mots et les dessins des enfants. C'est une préoccupation réelle pour Ivanovna. Cette mère de 5 enfants a demandé qu'on change son prénom. On la retrouve chez elle, dans une maison claire et coquette des environs de Moscou, devant un écran de télévision, ses 2 fils de 4 et 10 ans qui joue.
Mon fils de 10 ans adore TikTok et un jour il a fait un dessin qu'il voulait publier sur la plateforme. Un couple d'amoureux, un garçon avec un drapeau russe sur la joue et une fille avec un drapeau ukrainien. J'ai dû lui interdire de le faire car même pour ça, je pense qu'il peut être jugé. J'ai déjà vu des mineurs condamnés pour des choses de ce genre. Le petit de 4 ans, lui, adore les avions et l'un de ses préférés est le Mriya, un avion ukrainien. Et il sait tout sur cet avion. Il pourrait très bien monter dans un taxi et commencer à dire « J'adore les avions, blablabla, et mon préféré c'est le Mriya. Mais on ne peut pas aller le voir en Ukraine maintenant parce qu'il y a une guerre là-bas. » Et le chauffeur de taxi, en parlant à un enfant de 4 ans, pourrait se dire « Hey, mais il est quand même drôlement informé à la maison. » Alors, à lui aussi, j'ai dû dire qu'il ne fallait pas parler de l'Ukraine et de la guerre. L'autre gros problème supplémentaire est qu'en ce moment, il apprend à dessiner. Et il aime beaucoup les drapeaux. Du coup, il dessine très souvent le drapeau de l'Ukraine, vu qu'il aime cet avion, le Mriya. Et il le dessine sans cesse partout. Je passe mon temps à cacher ses dessins, juste au cas où, parce que je ne sais pas qui pourrait les voir et comment ça sera perçu.
En 2022, le nombre de dénonciations adressées à Roskomnadzor a officiellement augmenté de 26%, selon ce service fédéral russe chargé de la communication et des médias. La plupart des signalements reçus concernaient la publication sur Internet, je cite, d'informations illégales, y compris les fausses informations sur l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le parquet général a également fait état de plus de 5 millions de signalements en 2022. C'est le record de ces 20 dernières années. Les chiffres de 2023, eux, ne sont pas connus.
Dénonciation, 2 ans qui ont changé la Russie. Un grand reportage d'Anicel Jabri. Réalisation, Guillaume Buffet.